C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Ventus speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autre chose.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois des redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107 FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le mercredi 16 août déjà, et oui, là il est 8h30 au programme de cette matinale exceptionnellement. Deux reportages de Léo, c'est qu'il travaille beaucoup et qu'on est à la bourre dans la diffusion de ses reportages. Ainsi, le premier, ce sera une rencontre et une discussion avec Carole Bussadori, qui est la directrice de l'association Quoi de Neuf, ce sera dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, direction Vialas pour la seconde partie du triptyque qu'il a réalisé lors du festival La Vialas à la page. Il y aura de la musique comme d'hab, et on y va pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Le Conseil d'État a adressé vendredi 11 août un véritable camouflet au ministère de l'Intérieur en ordonnant la suspension du décret du 21 juin ayant prononcé la dissolution du mouvement des soulèvements de la Terre. Si cette décision n'a été rendue qu'en référé, une procédure sur le fond étant en cours, elle n'en constitue pas moins un cinglant désaveu du volumineux rapport des services de renseignement brandi par le ministère de l'Intérieur pour justifier cette dissolution. Alors que celui-ci dépeignait les soulèvements de la Terre en groupuscules organisés et hiérarchisés, inspiré des stratégies du Black Bloc, n'hésitant pas à recourir à la violence, y compris contre les personnes, le Conseil d'État affirme au contraire, je cite, qu'il ne résulte pas de pièces versées au dossier ni des éléments exposés à l'audience que ce collectif cautionne d'une quelconque façon les violences à l'encontre des personnes. L'ordonnance rejette également le portrait dressé par les services de renseignement d'un mouvement revendiquant le recours à la violence contre les biens en appelant massivement au sabotage. Alors que depuis quelques mois maintenant, le droit à manifester est largement remis en cause par l'exécutif, tant les interdictions de manifs se multiplient, alors que l'inaction climatique étatique est à son comble et qu'on sait maintenant sans aucun doute qu'on va se prendre un beau mur si rien n'est fait urgemment pour le climat, c'est bel et bien une petite victoire que cette décision du Conseil d'État. Mais pas d'inquiétude, le gouvernement a sans doute plus d'un tour dans son sac. Affaire à suivre, on verra à la rentrée.
Bonjour, je suis Carole Bussadori, je suis directrice de l'association Quoi de Neuf depuis 7 ans et demi à présent. L'association qui s'inscrit dans le domaine de l'accueil, l'hébergement et l'insertion et qui a pour but en fait d'accueillir toute personne qui la solliciterait et qui rencontrerait des difficultés sur son parcours de vie.
Il y a eu une AG, une assemblée générale qui s'est déroulée le 20 juin. Oui, de mes yeux, de néophyte à moi, tout s'est bien déroulé. Je m'y connais très peu en association. Mais du coup, de vos yeux à vous, quel a été le ressenti ?
Elle a plu. Cette année, elle était animée avec, à partir d'un micro-trottoir qui avait été réalisé par des membres de l'équipe. C'est vraiment un temps fort pour les administrateurs. C'est leur temps, je dirais, qui marque l'année et l'engagement qu'ils peuvent avoir pour les valeurs de l'association. Et donc, il y avait réalisé un sondage dans les rues de Florac auprès des habitants ou des commerçants pour recueillir en fait l'avis qu'ils pouvaient avoir sur l'association.
Ça fait du coup maintenant 30 ans que l'association existe. Quel a été le point de départ jusqu'à aujourd'hui? Quelles ont été les grandes évolutions de l'association?
Alors, ce que j'en sais, puisque je suis là seulement depuis un peu plus de 7 ans, c'est que au départ, c'est une association qui a été créée pour pouvoir aider en fait des étudiants qui ne trouvaient pas à se loger, et plus particulièrement des jeunes. Et au fil du temps, cette association a évolué en fonction des besoins de société, s'est agrandie, s'est inscrite dans le champ de l'accueil d'urgence, de l'hébergement, de l'insertion par le logement, et à proposer également un accueil de jour avec, je crois, dès le début, dans les premières années, la possibilité de partager des jardins, puisque je pense que ça date de 1998, cette initiative-là. Aujourd'hui, les jardins partagés existent toujours avec l'association.
Il a été évoqué, du coup, une rénovation du bâtiment qui a débuté en 2022. Les gens avaient l'air plutôt du coup contents de cette rénovation de bâtiment. Moi, je connaissais pas du coup il y a pas longtemps quoi de neuf. Qu'est-ce que ça vient apporter du coup cette rénovation du bâtiment? Qu'est-ce qui va changer? Quelles vont être les nouvelles choses?
Alors, ce que ça apporte, de mon point de vue, ça s'inscrit vraiment dans une démarche de qualité de vie, autant pour les personnes accueillies que pour les personnes qui y travaillent. Donc, des conditions d'accueil qui se modifient, qui se modernisent et qui deviennent, je pense, plutôt agréables, en fait, pour y être au quotidien et pour l'ensemble des gens qui sont accueillis.
Pour en citer que quelques-unes, les aides que l'asso apporte aux gens, il y a un lieu d'accueil, du coup, d'écoute, de la gestion de logements sud-Lozère, l'accompagnement social, des jardins partagés, des aides à la mobilité. Par curiosité, je me demandais quelle était l'aide qui était la plus demandée, du coup, par les bénéficiaires de Quoi de Neuf.
Je ne sais pas si on peut comparer les chiffres. Je pense que sur l'ensemble des actions que vous avez citées, elles sont toutes autant sollicitées les unes que les autres. Pour donner un ordre d'idée, sur la fréquentation de l'accueil de jour, on accueille à peu près 400 personnes par an. Voilà, les logements ont peu de temps de latence. On a un parc actuellement de 26 logements avec bien sûr des spécificités différentes pour chaque type d'accueil. Et l'association se développe d'autant plus les dernières années avec, je crois qu'on a, par rapport à il y a 7 ans, il y a environ 6 à 8 logements de plus. Et puis les démarches allées vers en fait, c'est-à-dire que pour les gens qui ne peuvent pas se rendre sur Florac, il y a la possibilité aussi d'accompagner sur leur lieu de vie, ou en tout cas proche de leur lieu de vie, puisque l'équipe se déplace.
La suite, c'est quoi l'aide la plus difficile à fournir aux gens? Ça peut être dans la démarche, dans le temps que ça prend.
Alors, on peut avoir des situations, en effet, plus ou moins complexes, et donc qui peuvent prendre du temps, des situations pour lesquelles Quoi de Neuf n'a pas la réponse à lui tout seul, et s'associe à d'autres partenaires. Hein. C'est important de le souligner, parce que c'est le travail en partenariat qui fait aussi la richesse des accompagnements et la possibilité pour les gens de trouver des réponses à leurs besoins. Sur les situations des personnes qui ont des parcours avec des situations administratives incomplètes, on va dire, hein, pour les personnes qui sont sans droit, ce sont des accompagnements qui là demandent énormément d'énergie et qui peuvent prendre des années.
Cette année, quelles ont été les nouvelles actions qu'a offert Quoi de Neuf, du coup, qu'a pu faire Quoi de Neuf?
Alors, quand vous dites cette année, vous parlez de 2022 ou 2023?
Vu qu'on est un peu...
on est un peu à cheval. La grosse action, c'est celle que vous avez évoquée tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la rénovation, en fait. D'abord, l'achat du bâtiment, de cette maison des années 70, et ensuite, sa rénovation totale. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un gros tournant pour l'association, et l'association ne le vivra probablement qu'une fois dans son existence. Et ensuite, on a développé des nouvelles actions avec des collaborations, par exemple comme la maison de santé du Collet de Dèze, où on est dans une action expérimentale et nouvelle, et qui porte ses fruits jusqu'à présent.
Pour pouvoir avoir autant d'offres pour les bénéficiaires de Quoi de Neuf, il doit y avoir du coup beaucoup de collaborations avec des associations, des organismes, sans pouvoir tous les citer. Est-ce que il y aurait des choses majeures, des récurrents comme ça en tête, des récurrences, qui sont-ils?
Bah après, je pourrais dire qu'il y a, si on parle d'un point de vue du soutien financier, on a des gros financeurs, hein, comme l'État, et puis ensuite le département, l'ARS. Donc là, on a vraiment les gros financeurs. Pour l'action de rénovation, on a eu des financements aussi de fondations. Alors, je ne sais pas si je peux les citer, Fondation Abbé Pierre, la Fondation Bruno, la Fondation AG2R La Mondiale, la Fondation Vinci. Donc, c'est des fondations qui, heureusement, ont été là pour qu'on puisse mener à bien le projet. C'est un exemple, hein, parce qu'en fonction des années, ça peut être aussi des partenariats différents en termes de financement. Et après, je dirais que c'est compliqué. Dans les rapports d'activité, il n'y a jamais la liste des partenaires, parce qu'on a toujours peur d'en oublier à Quoi de Neuf. Mais je peux dire que les partenaires sont nombreux, localement et au niveau aussi départemental, et que sincèrement, on les remercie grandement, en fait, pour tout le soutien qu'ils peuvent nous apporter. Sans eux, on ne pourrait pas faire le travail qu'on fait.
De ce que j'ai compris, c'est peut-être totalement faux, mais l'équipe du CA, est-ce qu'elle peine un peu à être renouvelée, à être changée? J'ai cru qu'il n'y avait pas de nouvelles demandes cette année à l'AG. Je ne sais pas comment ça fonctionne.
Alors, c'est en moyenne une dizaine d'administrateurs au niveau du conseil d'administration. Depuis que je suis là, c'est à peu près le nombre constant que j'ai connu. Dans le conseil d'administration actuel, il y a énormément de gens qui sont ou à l'origine de la création de l'association, ou qui ont intégré le conseil d'administration très rapidement après la naissance de l'association. Le renouvellement est un petit peu plus difficile. On va dire qu'on a accueilli de nouveaux administrateurs là les dernières années, mais que tous ceux qui souhaiteraient, qui se reconnaissent aussi dans les valeurs qui sont portées par l'association, peuvent demander à intégrer le conseil d'administration. Ouais.
Côté finance, ce qui est ressorti de l'AG, c'est que les budgets étaient stables, même en hausse un peu, il me semble. Je sais plus exactement, mais ce que j'avais remarqué entre deux lignes, c'était les adhésions qui avaient peut-être un peu diminué par rapport à l'année précédente. C'est vrai, c'est faux? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est dû à une mauvaise communication? Je sais pas.
Alors, le principe des adhésions sur Quoi de Neuf, c'est bien sûr les administrateurs, pour qu'ils puissent avoir un droit de vote dans les conseils d'administration et à l'Assemblée Générale, et prendre des décisions, donc politiques, pour l'association. Et ensuite, dans les adhérents, on retrouve aussi les personnes qui bénéficient de certains services de l'association. Pas de tous les services, mais de certains, c'est-à-dire que pour des questions, en fait, d'assurance, on est amené à adhérer à l'association si on veut emprunter un véhicule, des machines, outils pour le jardinage, etc. À minima, on demande cette adhésion. Donc, ça peut fluctuer d'une année sur l'autre en fonction des véhicules qu'on prête ou des outils de jardinage qu'on peut prêter, des broussailleuses, motobineuses, etc. Et ensuite, probablement aussi, il n'y a pas de communication, en fait. Quoi de Neuf, c'est beaucoup de bouche à oreille. Je pense que vous n'avez jamais vu de campagne.
Connu du bouche à oreille.
De communication concernant l'association, et ça aussi, c'est un choix. On informe, on communique pas forcément. Il n'y a pas de stratégie, en fait, par rapport à ça.
Il y a une raison précise, du coup, de ne pas communiquer, ou c'est peut-être un travail en plus que pas grand monde n'a envie de faire forcément.
Non, je pense que c'est une position. C'est une position, en fait, du conseil d'administration. Ouais. Donc, qui fait bien la différence entre informer et communiquer.
Et du coup, cette baisse d'adhérence, c'est un problème ou pas? Est-ce que ça a des répercussions, non?
Non, ça n'a pas de répercussions. Hein. Ça n'a pas de comme je vous disais, c'est une question d'assurance. Hein. C'est pour couvrir les gens en cas de problème en fonction des prix qu'on peut faire.
Du coup, pour clore les sujets sombres, je voulais évoquer le micro-trottoir.
Ah oui.
Parce que il a été réalisé du coup pour l'AG et ça a été un choix de garder les éléments les plus sombres, les plus pessimistes, mais ils sont quand même assez marquants d'une époque. Si je les cite, c'est par exemple les assos foutent en l'air l'argent public, le RSA ne devrait aller qu'aux méritants, les gens profitent et ne font aucun effort, seul un petit nombre mérite, quoi de neuf communique très peu. On ne devrait pas donner aux gens sans rien en retour. Est-ce que ce genre d'attaque est récurrente? Comment on s'en défend en fait de ce genre d'attaque?
Alors le principe de quoi de neuf, c'est pas de se défendre en fait, de se défendre de rien, mais de continuer à faire le travail qu'il a à faire. Voilà, de passer au-delà, parce que si l'association avait dû arrêter son activité à chaque fois qu'il y a eu ce type de préjugé vis-à-vis de l'association, elle n'aurait pas perduré 30 ans. Elle est là parce qu'il y a des besoins et ça n'est pas sa présence qui crée des besoins. C'est ça que je veux dire. Après, le fait d'être victime de préjugés, je pense que le poème qui a été, ou le conte qui a été lu en fin d'assemblée générale était assez significatif. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, tu seras toujours jugé et toujours critiqué. Donc, quoi de neuf? Passe au-dessus, puis continue d'avancer. La colère, elle s'exprime hein, sous toutes les formes. Là, quand vous parlez d'attaque par rapport au micro-trottoir, moi, je le vis pas comme ça en tant que directrice. Je dirais plutôt que ce sont des personnes, en fait, qui s'expriment et qui livrent leur opinion et qui ont le courage aussi de livrer leur opinion et leur position et qui ont un point de vue, en fait, sur la société, un point de vue sur la façon de vivre cette société et de vivre en société. Voilà. Donc, pour moi, ce micro-trottoir, c'est pas forcément vécu comme une attaque. Après, sur l'expression de la colère, bien sûr que la colère, elle s'exprime ici aussi, sous d'autres formes. Mais encore une fois, ça fait partie aussi du travail à mener ici à Quoi de Neuf, c'est-à-dire de ramener au calme, de donner du sens aussi à ce qui se passe et de faire en sorte que les gens arrivent à avancer dans leur chemin.
En tout cas, faut rappeler que du coup que ce micro-trottoir, c'était pas un avis général, c'était un choix de garder que des étapes comme ça pour pouvoir travailler un texte derrière qui était très joli et bien tourné en autodérision, c'était très bien fait. Ouais. Malheureusement, je l'ai pas en enregistrement, j'étais un peu trop loin dans la salle.
Oui, c'était d'en faire une chronique en fait, c'était ça. À partir d'interviews, une chronique a été réalisée, mais c'était aussi une autodérision vis-à-vis de nous-mêmes aussi, de ce que nous on peut vivre en tant que professionnels à Quoi de Neuf. Voilà, c'était pas...
Oui, totalement.
C'était du troisième degré parfois.
Carrément. Bon, sinon, si on revient du côté heureux des choses, j'ai reçu un énorme rapport d'activité de 50 pages. Apparemment, il est plus grand d'année en année. Comment ça se fait qu'il soit aussi rempli cette année?
Alors, il y a toujours un rapport énorme, je ne sais pas. En tout cas, il est censé être synthétique et repérant pour les gens qui le consultent, afin qu'ils puissent avoir une idée assez rapidement en passant les pages de ce que peut proposer l'association et rendre compte aussi de ce qui a été réalisé. Le 50 pages, c'est parce qu'il y a eu des années avec des versions en 4 pages.
Aujourd'hui, c'est quoi la locomotive de l'asso, cette chose qui permet d'avoir la volonté de s'accrocher, de continuer à avancer, d'être toujours plus accueillant? Personnellement, j'ai trouvé les témoignages du coup de l'AG qui étaient très bienveillants, les témoignages des adhérents, pas des adhérents, des bénéficiaires pendant l'AG qui étaient très 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 bienveillants et magnifiques. Et du coup, est-ce que ça aide et quelles sont sinon les autres choses qui font avancer l'association?
Alors on a la chance en fait d'accueillir des personnes riches aussi de leur expérience, de leur parcours, de leur culture et avec lesquelles toute l'équipe peut partager au quotidien. Donc je pense que là c'est vraiment un des points forts de l'association. Ensuite un conseil d'administration sincèrement qui porte des valeurs, qui a une position, qui tient le cap et qui s'inscrit vraiment dans les valeurs et principes de l'association Loi 1901.
Et du coup, j'imagine que déjà, il y a déjà des futurs projets qui commencent à être réfléchis, à bouillonner un peu, si ce n'est déjà même carrément commencé à être mis en place, je sais pas. C'est quoi, du coup, le futur de Quoi de Neuf ?
Alors, le futur de Quoi de Neuf, c'est le présent. on est amené là à nouveau à un mouvement d'équipe, donc dire adieu à des collègues et puis accueillir des nouveaux collègues. Et on va profiter en fait de cette étape cette année pour faire un travail sur la réorganisation de l'activité. En effet, beaucoup d'activités avec une petite équipe, à mon sens, parfois un peu juste, pour porter tout ce qu'il y a à porter. Voilà, donc une des prochaines étapes, ça sera celle-ci. Une fois qu'on sera posé, installé dans les nouveaux locaux, on travaillera sur la réorganisation de l'activité, de manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver et que tout soit mené de manière assez fluide.
Là, aujourd'hui, du coup, l'équipe est pleine, vous cherchez personne, il n'y a pas de manque de salariés ?
Alors, la prochaine fois, je vous promets, je vous fais passer une offre. Non, là, on est au complet. On est au complet. On accueille une collègue, Aurélie, qui vient d'arriver. Et on accueillera Sophie, en fait, qui est une ancienne collègue et qui a souhaité revenir travailler à Quoi de Neuf, ce qui est, de mon point de vue, plutôt bon signe.
Ok, parfait, ben merci beaucoup et à une prochaine fois.
Je vous remercie, merci à vous. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing this, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, AK. I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it.
If you ain't up on
pace, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang. Still puffin' my leaf, still with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change.
Still, I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners in them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners in them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners in them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners in them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly, lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world.
Still hitting the corners in them lolos, girl.
I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Try to be the king, but the ace is back.
So you ain't up on things.
Dr. Dre be the name, still running the game. Still got it wrapped like a mummy. Still ain't trippin', love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take they moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon'
get my regard.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still
hitting them corners in them lolos, girl.
Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still
hitting them corners in them lolos, girl.
Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still
hitting them corners in them lolos, girl.
C'est le deuxième épisode de Dialas à la page. Et Léo est parti interviewer les trois lecteurs de la journée du samedi. Samine Jean avec le texte Grosse Patate. Le trio Moroquois, j'espère que je le dis bien, avec Orchidea Gozadera. Et Timothée Robin, Violette Autelin avec Préliminaire. Et c'est parti.
Le planning du festival Dialas à la page est donc bien chargé. Ni trop, ni pas assez. Ce qui m'a permis, quand j'y étais le samedi, de prendre du son et d'aller discuter avec tous les lecteurs après chaque représentation. Connaissant très peu ce milieu, j'ai appris sur le tas en discutant avec eux et en faisant des erreurs. Surtout au début où je confonds le fait de lire et de compter quelque chose. La première lecture était à 11h et c'était le journal d'une grosse patate de Dominique Richard. C'était lu par Sabine Jean.
C'est le plus petit de la classe. Moi j'adore lui donner des baffes, ça me détend, je le coince contre un mur et hop, une claque, il sait pas se défendre Rémi. Une fois il est allé se plaindre à la maîtresse, mais moi j'ai raconté que c'est lui qui avait commencé en me traitant de grosse patate. Ah bien sûr c'était pas vrai, hein. La maîtresse elle était très ennuyée, et ben elle savait plus qui punir. Bah, depuis ce jour, je peux battre Rémi comme bon sang. J'adore le battre. Ça me détend, mais ça me détend quand les autres m'ont embêté.
Donc, je m'appelle Sabine Jean, je suis comédienne, j'écris, je réalise depuis peu de temps des films et puis je donne cours aussi dans une école.
Pourquoi ce texte, pourquoi ce livre, d'où ça vient? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on te retrouve à compter au festival de Vialas?
Alors donc c'est donc je lisais, c'était pour une lecture hybride hein, parce que je joue un petit peu le début, un petit peu la fin, mais le gros du travail est une lecture. Et ça s'appelle Le journal de grosse patate de Dominique Richard, qui est un texte très poétique sur une petite fille qui nous raconte les déboires de sa vie de petite fille, mais qui sont aussi ceux des adultes, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, le deuil, enfin tout est raconté très poétiquement. Et pourquoi ce texte? Alors ça tombe vraiment particulièrement bien pour moi, parce que ce texte, il a reçu beaucoup de prix de Dominique Richard, et notamment le prix Armand Gatti il y a quelques années en arrière, en 2005 si je ne me trompe pas. Et moi, je vais devenir la marraine du prix Armand Gatti dans les écoles belges, plus particulièrement dans les écoles européennes de Bruxelles, dès la rentrée. Alors c'est le prix de la pièce jeune public théâtre contemporain, donc c'est l'auteur qui reçoit ce prix. Et voilà, donc je serai comédienne lectrice et marraine de ce projet qui existe depuis très longtemps en France, dans le sud-est de la France, mais en Belgique. Et donc voilà, donc ce texte il est vraiment symboliquement, il tombe bien je dirais, c'est un texte que j'apprécie particulièrement.
Comment tu l'as découvert ce texte ?
Ben justement, je l'ai découvert au moment du prix Armand Gatti. À l'époque, c'était des amis qui montaient ce prix. Et donc, voilà, je l'ai découvert à ce moment-là. On me l'a mis dans les mains et je dois dire qu'il m'a beaucoup marqué.
Du coup, quand tu comptes la pièce, moi, je connais très peu le milieu du conte, de la lecture, tout ça. Je me demandais, c'est normal, la partie théâtrale, sans texte, les costumes qui changent au fur et à mesure, les choses très jouées, c'est normal pour du conte ou c'est ta signature, c'est ton truc?
Alors, en fait, moi, je fais des lecture hybride, j'aime beaucoup. D'abord, il y a le côté comédienne qui ressort et je trouve que ça donne vie, ça donne corps au texte. Par contre, c'est pas un conte, c'est une lecture et dans la lecture, on incarne aussi. Donc, il y a une espèce de transition qui se fait naturellement. Dans le cadre du journal de Grosse Patate, c'est beaucoup plus naturel. Enfin, ça a été naturel pour moi en tout cas de le mettre en voix et en espace, je veux dire en espace plus qu'en scène, en espace, parce que c'est un journal qu'une petite fille retrouve. Et la particularité que j'ai donnée à cette mise en espace, c'est que j'ai voulu que ce soit la femme, qu'on ne voit pas dans le livre, la femme qui est devenue grosse patate, qui revienne un peu à la manière des sites que l'on trouve des copains d'avant. Et cette femme qui retrouve ses amis dans sa salle de classe, le public étant ses amis de classe de l'époque. Et elle trouve son journal, le journal d'une grosse patate, sur son bureau de classe. Et donc, elle le redécouvre avec ses amis. Elle repartage ça avec ses amis de l'époque. Voilà, donc oui, c'est, on peut dire, ma signature. En tout cas, c'est comme ça que j'aime amener le texte dans la lecture.
Ça peut pas engendrer quelques petits problèmes d'oubli qui peuvent arriver par-ci par-là ou des choses comme ça ?
Sur le texte, évidemment, quand on est en lecture, on n'a aucun problème sur les mots, etc. Sur un texte mis en scène, comme toujours, comme tout le temps, en tant que comédien, on a des petits bugs de texte à droite, à gauche, si jamais, ou pas. Et si jamais, en général, c'est fondu dans l'ensemble et donc ça porte jamais, on va dire, de tort ou à confusion dans la pièce, c'est l'essentiel. Mais bon, voilà, on est comédien, donc on s'accroche.
Ta session d'aujourd'hui, tu l'as enregistrée, il y a une vidéo et un audio. C'est en vue de faire quoi ? De faire...
Alors en fait, aujourd'hui, on a enregistré une captation qui est plus destinée au théâtre qui serait intéressé par cette lecture hybride. J'ai déjà proposé ça. Donc en février, tous les samedis de février, du mois de février de 2023, je jouais au Théâtre du Nord-Ouest à Paris, où je présentais déjà cette lecture hybride. Donc là, je l'avais lâché un petit temps pour d'autres projets. Et donc, je suis très heureuse d'être venue refaire ça. Mais c'est pour ça que c'était filmé aujourd'hui. L'intégralité du spectacle était filmée aujourd'hui. Et puis, il y aura un petit teaser qui sera fait, mais là, plus à titre de diffusion dans les réseaux.
Ça fait depuis combien de temps que tu travailles ce texte ? Parce que j'imagine que maintenant tu le connais à peu près par cœur, donc ça demande quand même du travail, du temps.
Ah bah oui, même dans une lecture, il y a un travail qui est fait, il y a un travail de voix qui est fait, ça m'intéresse beaucoup. Donc moi je travaille beaucoup le corps, mais en fait, quand on est en lecture, même sur une chaise, le corps il est toujours en mouvement, au moins à l'intérieur. Et donc la voix jaillit du corps pour moi, et donc voilà. Donc du coup il y a toujours ce travail de voix qui est là, et je le travaille vraiment pour la scène, on va dire depuis décembre à peu près de l'année dernière, 2022. Et donc en scène, il a été fait donc à Paris en février 2023. Voilà, donc ça fait quelques mois déjà que je travaille. Ouais.
On parle du théâtre de rue comme un théâtre vivant qui évolue à chaque représentation. Est-ce que c'est pareil du coup pour de la lecture comme ça ? Est-ce que le spectacle peut évoluer ?
Une lecture, elle évolue. En tout cas, pour moi, pour le journal de grosses patates, ça évolue parce que, par exemple, comme il y a... j'ai amené ce personnage de grosse patate adulte, il y a l'adulte, et c'est un peu l'adulte qui revient rencontrer la petite fille qu'elle a été quand elle était jeune, qui vient à sa rencontre, et donc du coup il y a un glissement de voix. Il y a des moments où c'est la voix de l'adulte qui prend un peu le dessus, puis il y a des moments où c'est vraiment la petite fille qui revient totalement et qui est là et qui raconte un peu son histoire et ce qui lui est arrivé, qui revit ses souvenirs. Donc, et ça, par contre, le travail de voix, je le fais en amont, mais après, une fois que je lis, c'est totalement laissé libre. Même pour moi, je me surprends des fois au niveau de la voix. Il y a des glissements de voix qui se font. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et le spectacle de rue, je veux dire spectacle, parce que ça peut être du théâtre, ça peut être de la lecture, ça peut être des contes, ça donne cette liberté-là et cette magie-là de retrouver un peu son origine, c'est-à-dire d'aller à la rencontre du public.
On peut te retrouver dans l'été si tu relis ce livre, si tu fais autre chose, du théâtre, quelque chose, on te retrouve où ?
Alors, je vais donner une petite avant-première. Oui, alors je suis dans l'écriture d'une pièce qui s'appelle « Le sang des louves ». Et voilà, donc ça c'est une pièce qui sortira d'ici quelques temps. Il y a un film que j'ai fait qui s'appelle « Ici le Mistral souffle fort » qui est en chemin depuis janvier de cette année et qui continue son petit parcours qui sera diffusé normalement dans un cinéma d'art et d'essai dans le sud-est de la France et après en chaîne TV, je pense. Donc dans l'écriture et dans l'écriture jeune public plus particulièrement, c'est en chemin et ça devrait se terminer d'ici décembre, ça devrait sortir. Et sur la lecture du journal de grosses patates de Dominique Richard, j'espère, la captation est à ce but-là et le teaser aussi, donc j'espère pouvoir la reproposer dans des salles de théâtre grandes ou petites ou même en extérieur. C'est ce qui m'intéressait, de faire cette captation en extérieur pour montrer que même pour le jeune public, on n'a pas besoin d'être dans une petite pièce intimiste, c'est bien, c'est sympathique, mais on peut le proposer dans tout lieu, en fait. Et voilà, et puis ça redonne un peu des lettres de noblesse aussi au théâtre de la rue et à... voilà.
Ben merci beaucoup et très bonne journée à toi.
Merci beaucoup.
Ce que j'ai beaucoup aimé lors de ce festival, c'est que chaque lecture avait son propre style et était bien unique. La seconde lecture, c'était de la poésie, lue sur un fond de musique, ou l'inverse. Je prononce sûrement mal, mais c'était Orchidea Gozadera par le trio Morocoy.
Les ombres s'estompent dans l'après-midi languide. Je décale ma douleur. Je découpe des mots, des phrases. Une orchidée, un morceau de gypse et un peu de rouge sur les lèvres. Les mères ne peuvent rien pour le bonheur, juste nous regarder en souriant dans le lointain. J'ai grignoté un bout de ton corps et je l'ai savouré. Tu plastronnes d'amour, de seins, de cuisses, de salive, de doigts dans mon sexe et à la frontière de nos bouches, dans l'intime du corps et des langues, se mêlent nos désirs et notre besoin inconsolable d'amour. Encore, un homme sincèrement épris caresse le bout de mes seins infiniment. Il m'offrirait son corps, son cœur en pâture si seulement il en avait un. S'écœurer en perdre le cœur et le souffle, caché dans les replis des corps des images éparses. Et notre amour comme un mot sur le bout de la langue.
Eh ben, on est du coup le trio Morocoy, c'était le festival de Vialas qui nous a invités aujourd'hui. Ça fait un an qu'on travaille ensemble. Donc notre idée c'était de mélanger en fait un peu des sonorités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ensemble. D'un côté, donc la kora, avec Noémie, je te laisserai en parler peut-être, et des instruments aussi d'Amérique latine, la quijada, le charango, le cuatro, et d'autres cordes. Et de mélanger ça avec des textes qu'on dit, donc c'est des compositions que je fais moi. Moi, j'écris depuis un certain nombre d'années, quoi. Et donc, des textes... Alors, je suis Delphine Hérault et je travaille à Marseille, donc avec des collectifs et aussi dans des petits groupes comme ça, de création sonore. Et donc, j'aime bien traficoter la langue, essayer de faire bouger un petit peu nos attentes, de ne pas être dans le sens tout le temps, mais plutôt dans un travail un peu organique avec la langue pour faire émerger des images, des impressions. Enfin, moi, ça me tient énormément à cœur. Ça fait très longtemps que j'écris et pour moi, c'est vraiment l'occasion de partager un peu mon univers avec des personnes en chair et en os. Donc, j'aime beaucoup ça.
Moi, je suis Noémie, donc on a créé le trio Morocoy. Au début, c'était un duo qui s'est transformé en trio et on a invité Alvaro justement pour partager les compositions musicales. Donc moi, je joue de la kora. On avait un morceau avant aussi au Ngoni, qui est le petit cousin de la kora, mais pour des raisons, on va dire, aussi logistiques. Là, on jouait dehors, en pleine forêt, on a réduit au maximum le matériel, et puis avec la kora, on peut déjà faire pas mal de choses. Et j'ai aussi un petit tambour, donc aux percussions. Et Alvaro, qui nous accompagne aussi, qui vient du Chili et qui a créé les musiques aussi avec moi. Les textes sont de Delphine. On se fait des retours un peu ping-pong et les musiques d'Alvaro et moi. Voilà. Et lui, donc, il joue différents instruments latino-américains, le cuatro qui vient du Venezuela, le charango, plutôt Pérou, Bolivie, des Andes, et la quijada, aussi du Pérou. C'est une mâchoire d'âne pour servir de percussion, et la guitare électrique pour une touch un peu plus rock. Chacun y voit ce qu'il veut après. Mais
je m'appelle Alvaro Figueroa, je viens du Chili, je suis musicien depuis 20 ans et je joue la musique d'Amérique du Sud normalement, et les rythmes de là-bas, chez moi aussi, du Chili. Et avec des différents instruments de corps, principalement de corps, comme le charango, le tiple colombien, la guitare aussi, et le cuatro vénézuélien. Et en ce projet, justement, j'utilise ces trois instruments, c'est le charango, cuatro et guitare. Et un instrument de percussion, que c'est un idiophone, je ne sais pas si c'est dit comme ça, idiophone, mais peut-être. C'est l'instrument qui donne la sonorité tout seul. Comme la quijada de burro, qui est un instrument qui c'est la mâchoire de âne. Et que c'est sec, ouais, c'est, il y a tout un process pour faire cet instrument. Et voilà, c'est un peu comme ça.
Vous avez les textes et la musique ont été écrits et composés du coup pour l'événement, ou c'est peut-être un spectacle qui compte tourner, être rejoué ailleurs?
Alors en fait on a commencé à créer ce petit set en septembre, donc vraiment pour expérimenter entre nous. On avait envie de voir ce qui émergeait de nos rencontres, en fait des frottements entre la musique et les textes. Donc on est vraiment parti sur comme ça en impro total, en ne sachant pas du tout quelle forme finale ça donnerait. On n'avait pas de projet spécifique et c'était vraiment une rencontre entre nos univers, et de tâtonner ensemble comme ça, ça nous a beaucoup plu. Et ensuite petit à petit est venue l'idée quand même de partager ce travail. On nous a invités à Marseille à faire à jouer dans un festival, un festival de poésie, Oh ma parole. Et donc ça nous a permis, si tu veux, de donner une sorte de date et de deadline pour partager ce qu'on faisait, ce qu'on bricolait ensemble. Et ensuite il y a eu cette proposition de Vialas qui nous a, enfin on a eu très envie quoi, on les a contactés, enfin voilà, un petit peu par hasard, hein, le destin fait bien les choses. Et on a donc travaillé d'autres morceaux aussi pour Vialas, spécifiquement pour aujourd'hui. Et puis maintenant, on a vocation, à partager là encore ce travail qui est un peu en évolution encore. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses encore qui ne sont pas complètement fixées, qui sont en travail. Et pour nous, c'est vraiment des étapes super importantes, quoi. Là, c'était la première fois qu'on jouait en extérieur, près d'une rivière, sous des arbres, des châtaigniers. Enfin, c'était assez magique.
Et donc là, on fait une petite tournée estivale. On avait cette date à Vialas. Demain, on part dans les Hautes-Alpes, à Vars, dans le cadre d'un projet qui s'appelle le Théâtre Volant, avec Jean Guillon, qui est un chouette conteur marseillais, qui organise ce projet tous les ans. Et ensuite, on va aller à la Batie Mont-Saléon, des petits villages dans les Hautes-Alpes. Et on est ravis, c'est avec les offices de tourisme. Voilà, on peut trouver les infos, je pense, sur Internet. Et au niveau du travail musical par rapport au texte, il y a certains morceaux qui sont nés plutôt de textes et on a composé ensuite les mélodies. Et parfois, c'était l'inverse, où on partait d'une mélodie. Et ensuite, après, Delphine nous proposait un texte. Et après, on se faisait des retours. On essayait de voir comment ça pouvait se combiner avec la mélodie. Aussi, les coupures, les moments où le texte est seul, sans musique, où il n'y a que la musique et pas de texte aussi, ça dépend. Et c'est très intuitif, en fait. Enfin, par exemple, moi, pour la cora, on a fixé certaines mélodies avec Alvaro pour pouvoir jouer ensemble. Et sinon, j'utilise beaucoup l'improvisation. Moi, ça fait peu de temps que je me suis mise à la cora depuis l'année dernière, en fait. Un an et demi. Voilà, donc j'utilise ce processus-là de l'impro qui est assez chouette. Et ça nous laisse une liberté, en fait, par rapport aussi aux mots et aux mélodies.
Ça se ressemble pas du tout, l'improvisation. Tu faisais un autre instrument avant, du coup, la cora. D'où ça te vient? Pourquoi la cora? D'où quand t'as commencé? Parce que c'est... Pour partir en impro, ça n'est pas nulle part non plus.
Alors moi, je viens plutôt d'un apprentissage assez académique au conservatoire, où j'ai fait de la musique baroque, du clavecin, pendant 10 ans. Et en fait, la cora, pour moi, c'est un instrument que j'ai rencontré aussi avec un ami. Et là, c'est la cora d'un ami qui m'a construite, que j'ai fait revivre. Et en fait, j'ai appris cet instrument-là par l'impro, en fait. Et justement, pour casser un peu ces schémas peut-être plus académiques de l'institution, du conservatoire, où c'est pas toujours très accessible. Enfin, ça dépend quel professeur on a. Et là, j'ai vraiment appris toute seule, finalement, je pense, pour sortir de ces schémas-là assez fixes, assez figés parfois. Sinon, je fais de la batterie, des percus, là où je prends des cours avec un prof aussi.
Vous disiez du coup que vous n'étiez pas habitué à l'extérieur, c'était votre première fois. Ça choque la première fois qu'on arrive dehors? Est-ce que c'est beaucoup de changements? Quels sont les changements justement entre la scène intérieure et la scène extérieure? Est-ce que ça fait du bien?
Moi, je trouve ça super. Mais c'est un milieu plus urbain. On avait joué dehors, effectivement, mais en ville. Mais là, c'est vrai qu'il y a... Là, on est dans un cadre vraiment un peu tellurique, avec des vieux arbres, etc. Et je pense que ça donne une couleur un petit peu différente. On était sous les feuillages, donc le son, je pense qu'il est différent aussi. Et puis, il y a des inattendus. Là, il y a eu un chien, à un moment, qui a renversé une chaise, je crois, pendant le spectacle. Et moi, j'aime bien ça, que le monde extérieur soit là, qu'on ne soit pas juste dans notre... On est plus avec les gens, je trouve. Le fait qu'il y ait un tapis, qu'on puisse être par terre, que les gens soient proches. Il n'y a pas ce côté saine et distant qui n'est pas du tout mon truc, pour le coup.
Je crois que le mot pour l'adaptabilité à tous les terrains et surtout extérieur, je crois que c'est in situ. Ouais. Est-ce que ce serait du coup quelque chose que vous revendiquerez peut-être plus tard dans le... C'est un groupe de musique? C'est une compagnie? Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Parce que du coup, il y a deux questions en une, mais...
Pour l'instant, on est vraiment... On a une petite association, on est vraiment... on se considère comme un groupe, mais c'est vrai qu'on a... un moment, on était entre le spectacle et le concert, c'est des choses que, pareil, on veut travailler. Sur l'in situ, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est une réflexion que j'ai pu avoir, effectivement, de savoir comment travailler dans les lieux. Je travaillais avec une comédienne, justement, performeuse, qui m'a un petit peu initiée à toute cette question de l'in situ. Pour l'instant, nous, ça, c'est un truc qu'on découvre et on verra un petit peu. C'est vrai qu'au niveau technique, on a eu du coup un petit peu à être adapté, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, évidemment, on était au bord de la rivière, donc il fallait... Et en même temps, nos instruments, c'est-à-dire que si on jouait, on aurait pu jouer en acoustique, mais c'était compliqué, ça, tu peux l'expliquer peut-être, Noémie ?
Oui, effectivement, en acoustique, on avait testé entre la voix, les différents instruments, mais pour que tout le monde entende vraiment bien chaque sonorité, la voix, aussi les mots de Delphine, du coup, on avait deux petits amplis, après, sur pile, et on savait pas, en fait, on connaissait pas non plus le lieu avant de venir. C'était une belle expérience. Après, ce qu'on peut rajouter aussi pour l'avenir un peu du groupe, c'est ce qu'on aimerait beaucoup faire, c'est envoyer aussi ce projet aux instituts français, à l'Alliance française, pour faire des résidences et jouer, par exemple, dans des pays en Amérique latine, par rapport aux instruments aussi que joue Alvaro, et éventuellement aussi par rapport à la Kora, au Sénégal ou au Burkina Faso, on a des contacts aussi là-bas, on pourrait aller pour créer des nouveaux textes, des nouveaux morceaux avec des artistes aussi là-bas, et ensuite éventuellement faire des partenariats ici, ça ce serait très chouette. C'est notre, on a ça dans un petit coin de notre tête.
Merci beaucoup et bon après-midi à vous.
Merci à toi.
Merci.
La dernière lecture du samedi était proposée par Thibaut Robin, qui fêtait ses 18 ans le jour même, et Violette Autelin, une de ses amies. Ils sont plutôt jeunes et ont osé tenter l'expérience qui s'est plutôt bien déroulée. Le texte, c'était « Préliminaire » de Jean-Pierre Martinez.
Vous voyez cette femme assise à cette table ? Elle est là, tous les matins. Elle arrive un peu avant moi ou un peu après, vers 8 heures. Elle commande un café.
Un café, s'il vous plaît. Je me demande qui ça peut bien être, ce type. Je vois bien qu'il me regarde par en dessous quand il croit que je ne le vois pas. Ça doit être intimide. On se croise tous les jours ici depuis des mois et il n'a encore jamais osé venir m'adresser la parole. À moins que je ne l'intéresse pas, tout simplement. Je ne suis pas assez bien pour lui, c'est ça? Mais pour qui il se prend? Il n'est pas aussi sexy qu'il en a l'air.
Je suis Timothée Robin, donc de mon famille, Robin. J'habite à Nogaret, donc juste à côté, depuis l'âge de mes 2 ans. Je dis où je suis né.
C'est pas si important, mais si t'as envie.
Je suis né à Dole, dans le Jura. Et je fais du théâtre depuis l'âge de mes 6 ans, d'abord avec le théâtre clandestin avec Cyril Djalmit, donc à Vialas. Et ensuite, j'ai continué avec Anne Coutaudier à Génolac. Et là, je suis à JBD en spécialité théâtre et au conservatoire de théâtre d'Alès. J'ai mes 18 ans aujourd'hui, je suis à ma 10e année de théâtre en général.
Là aujourd'hui, tu étais pas tout seul, tu étais avec...
Donc j'étais avec Violette Hotelin, qui est dans le même lycée que moi, qui pourra se présenter juste après. Elle a fait du théâtre pendant 3 ou 4 ans. Et ensuite, elle s'est orientée plus dans le cinéma, où elle monte beaucoup plus de courts-métrages. Je crois qu'elle en a un qui est passé dans un festival à Paris. Et donc je lui ai proposé de faire cette lecture avec moi parce que c'est d'abord une très bonne amie et ensuite quelqu'un qui a un grand esprit, un grand cœur et de l'idée aussi.
Le texte que vous avez du coup lu aujourd'hui, c'était quel texte ?
Alors c'est un texte qui s'appelle Préliminaire de Jean-Pierre Martinez, donc sur le thème de la rencontre où donc les deux individus se rencontrent, mais aussi ont une certaine appréhension de la rencontre. Et on revient, c'est comme une boucle où en fait à la fin on revient aux personnages qui viennent de se rencontrer, qui ne se sont pas encore rencontrés.
Ok,
okay bah, du coup, il me l'a déjà dit, mais je m'appelle Violette Hotelin, j'ai 17 ans, donc je suis au lycée en première générale et... du coup, Timothée m'a proposé de faire cette lecture. Au début, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce qu'on n'a jamais fait de théâtre ensemble avant. Et puis, je trouve que ça s'est super bien passé. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir fait et qui m'ait poussée en fait à sortir un peu de mes retranchements. Voilà.
Vous avez eu très peu de temps de préparation. Comment ça se fait ?
C'est de notre faute, honnêtement. On s'y est pas forcément pris à l'avance. Donc, on a eu une semaine de préparation.
Ouais, un peu plus.
Mais heureusement, il y avait Olivier du coup qui nous a énormément aidés. Et on n'aurait jamais fait ça sans lui.
Ouais, c'est vrai.
Mais oui, c'est de notre faute si on a eu très peu de temps.
C'est-à-dire en une semaine, il vous a fallu faire quoi ?
On a d'abord trouvé plusieurs idées de mise en scène pour chaque scène. Donc ça nous a pris 2-3 jours.
La musique.
La musique. Et puis ensuite, tout mettre en pratique.
Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on a fait environ à peu près 2-3 répètes par jour sur cette place. Et Olivier, qui a déjà mis en scène plusieurs lectures, notamment l'an dernier où j'ai déjà joué sur la place du Monument aux Morts au-dessus. J'ai joué Le Malade Imaginaire. Et donc il m'avait beaucoup aidé et on avait été assez efficace aussi sur la mise en scène. Donc j'avais pas trop peur parce que je savais très bien qu'on allait avoir des idées, etc. Puis nous, on a quand même un minimum d'expérience, donc ça allait fonctionner en fait.
Au final, la lecture, c'est pas plus difficile que le théâtre en soi parce que tu dois t'accrocher vraiment au mot près. Des fois, il y a des ratures, du coup, tu reprends le mot, alors que sur du théâtre plutôt classique, tu vas réinterpréter un peu, changer le mot, te réadapter. C'est pas plus difficile du coup ?
Alors, le truc, c'est que quand tu lis un texte, déjà, il y a quelque chose qui est plus dur, c'est que tu dois jouer et en même temps lire. Alors, pas forcément dans toutes les lectures, mais bon, quand tu lis un texte, forcément, tu finis quand même un minimum par le connaître après avoir plusieurs répété. Donc, il y a des phrases que tu peux terminer comme ça en jouant. Mais après...
C'est quand même rassurant d'avoir le texte.
Trop lire, c'est pas un piège.
Trop lire, c'est un piège.
Mais finalement,
s'approprier le texte un peu, ouais, c'est pas mal.
Oui, comme on le fait quand même beaucoup de fois, finalement, après, on arrive à le connaître un petit peu.
Comme si c'était presque naturel, en fait. Mais oui, voilà.
À côté de ça, vous faites quoi ? Du coup, vous avez des projets en cours ou c'est juste pour l'instant l'été et les vacances ?
Là, on a tous les deux passé notre bac de français cette année, qu'on a eu, hein, bien évidemment. Moi, j'ai fini mon année au conservatoire, là, donc j'ai déjà présenté une pièce au Cratère. Et après... Là, j'ai pas de projet à part pour l'an prochain repartir au conservatoire, etc., spécialité théâtre. Donc après, lancer de nouveaux projets, mais là, c'est un peu la pause. Et en même temps, on en profite, il y a ce festival de lecture qui est organisé donc, depuis 3 ans, sur lequel nous, ça nous fait plaisir de participer, etc. Et voilà, c'est aussi bien de créer un univers, etc., puis présenter quelque chose aux gens du village.
Voilà. Des projets ?
Du coup, comme il l'a dit tout à l'heure, moi, je m'oriente plutôt dans le cinéma. Du coup, à la fin de l'été, j'ai un petit tournage de prévu sur plusieurs jours.
Dans l'acting ?
Non, dans la réalisation. Pour l'instant, j'attends ça avec impatience.
Ok.
Bah merci à vous.
Bah okay. Merci Radio Bartas.
C'était donc les trois lectures du jour, et un plaisir d'avoir découvert trois univers bien distincts. Les arts de rue me surprendront toujours, et il me reste encore beaucoup de choses à découvrir dans d'autres festivals. Encore un grand merci à l'asso Vivra Vialas pour organiser ce genre d'événement.
Elles ont un sourire à diffraction retardée, c'est comme une bombe de beauté dans la constellation de Cassiopée.
Merci beaucoup Léo, et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, profitez-en bien. On se quitte avec Poil aux yeux de Debout sur le Zinc. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. À lundi, ciao.
Un beau jour que j'allais aller à l'école, une idée bizarre me suivait comme un pot de colle. Elle s'accrochait à moi, à mes chaussettes, comme un poisson pilote à sa roussette. Je lui dis va-t'en, j'ai pas le temps, il faut que je décolle. Mais elle ne m'écoutait pas, elle était un peu folle. Elle attendait de moi que je m'arrête pour grimper de mes pieds jusqu'à ma tête. Elle avait de petits bras et plein de poils pour gratter, et de très grands yeux tout ronds où l'on peut se regarder. Elle m'a tenté tant chatouiller le menton que je me suis cogné le front. C'est alors que plein d'idées poilues sont sorties de ma tête, faisant la ronde et chantant à tue-tête. Nous on veut pas aller à l'école, on préfère voyager, prendre notre envol. Se chauffait d'un tout autre bois. Stop la farandole dans un claquement de doigts. Puis elle dit, mes amis, écoutez-moi, je vous en prie, ouvrez les yeux, faites comme moi. Les idées poilues ont ouvert de grands yeux tout ronds, et vu qu'autour d'elle il y avait plus de 1000 façons de vivre et de parler chez les filles et les garçons de mon école, près de ma maison. Ce jour-là, j'ai beaucoup voyagé, grâce à mes copains de l'école et de mon quartier. Et plus tard, quand je serai grand, je saurai voyager dans le cœur des gens.